me kese pastil.
Me kese pastil.
Oh, me kese kese pas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Nouvelles du Monde pour ce jeudi 21 mai 2026. Et vu qu'on n'est pas en avance, on commence direct et on va parler d'une loi qui va être votée plutôt discrètement, mais plutôt massivement aussi à l'Assemblée nationale. On va parler en effet des armées. C'est la loi de programmation militaire pour 2024-2030 qui vient d'être donc à nouveau adoptée. Hein. C'était ce mardi 19 mai. Donc avec cette loi, déjà au niveau financier, les députés donc l'ont approuvé et ils ont approuvé 36 milliards d'euros de plus dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient. Ce projet de loi avait été adopté en première lecture par 440 voix contre 122, 440 contre 122, donc une majorité écrasante. Le Rassemblement national et le Parti socialiste ont voté pour, tout comme le camp gouvernemental, et le reste de la gauche s'y est opposé, lui dénonçant, au-delà donc de l'aspect financier, de certaines de ces mesures liberticides, on va en parler un petit peu plus tard là. En tout cas, le texte, pour l'instant, il est désormais attendu au Sénat le 2 juin pour sa version finale. Il a été assez peu amendé hein, dans sa première version. C'est un projet de loi dont le but est de fixer d'ici 2030 les grandes orientations et les moyens des armées françaises. Et il doit donc porter à 436 milliards d'euros les dépenses militaires totales prévues d'ici la fin de la décennie. Donc je vous le disais, il y a 36 milliards d'euros de plus sur les 400 qui étaient déjà actés. Alors, ce texte de loi ne va pas modifier le format des armées. On est sur 210 militaires dans l'armée active, 225 avions de combat et 15 frégates de premier rang. Ça, c'est un petit peu pour voir de quoi il s'agit. Mais ce projet va mettre l'accent sur des postes d'investissement qui sont jugés nécessaires, hein, à commencer par des munitions, encore plus de missiles et d'obus et des drones. Et en plus donc de ce volet investissement, le projet de loi amène plusieurs nouveautés qui ont fait pas mal tiquer, notamment dans l'opposition. Notamment un nouveau régime exceptionnel qui s'appelle l'état d'alerte de sécurité nationale. État d'alerte de sécurité nationale. C'est au dernier jour de l'examen de ce texte, lundi, que les députés ont adopté cet article qui est le plus sensible du texte. Dans cet article est prévu donc un nouveau régime exceptionnel qui pourra être déclenché. Voici les mots exacts, sur tout ou partie du territoire national, par décret en Conseil des ministres, en cas de menace grave et actuelle. Donc ça se fait par décret en Conseil des ministres, et en cas de menace grave et actuelle. Donc là, ce sont encore les mots sur lesquels on va jouer, qui inquiètent beaucoup des observateurs. Pour les cas dans lesquels ce régime exceptionnel pourrait être déclenché, il y a trois catégories de dangers. Une menace sur la continuité des activités essentielles à la vie de la nation et la protection de la population. Une menace sur la continuité des activités essentielles et la protection de la population. Ça rappelle un peu les termes un peu flous qu'on utilise pour parler de terrorisme. Le deuxième cas, c'est une menace de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense. Et le troisième, c'est une menace justifiant un déploiement des forces françaises ou alliées. Le gouvernement, donc, dans un de ces trois cas, pourrait déclencher une batterie de mesures, notamment de simplification administrative, pour par exemple passer au-dessus des normes environnementales ou d'urbanisme. Par exemple, construire des hangars pour stocker des rafales sans passer par le droit commun sur la protection des espèces. Cet article donc suscite de vives inquiétudes à gauche, puisque les critères de déclenchement sont beaucoup trop flous. Ce sont les mots du député Bastien Lachaud, un insoumis, qui estime, lui, qu'une décision aussi grave, qui permet de déroger au droit commun et d'accroître donc les pouvoirs de l'exécutif, doit normalement obligatoirement passer devant le Parlement. Et là, vous l'avez compris, c'est un décret en Conseil des ministres qui peut ouvrir tout ça. Le groupe des Insoumis a d'ailleurs annoncé mardi en conférence de presse leur intention de voter contre, tout comme aussi les députés écologistes, puisque là aussi c'est le droit de l'environnement qui risque, entre autres, d'être pas mal sacrifié. Pour ce qui est des libertés individuelles, évidemment, on n'est pas dans un état d'urgence et a priori elles ne sont pas incluses dans cet état d'alerte de sécurité nationale. Voilà. En tout cas, pour ce qui est des écologistes, voici ce qu'ils en disent. Cet article nous interroge sur le caractère illibéral qu'est en train de prendre ce gouvernement. Peut-être son intention est-elle de singer Trump et de contourner le Parlement en cas de conflit. C'est ce qu'a dit la porte-parole des écologistes Léa Balaguer-El-Mariki. Le texte prévoit aussi, à côté de tout ça, par exemple, de permettre à certains opérateurs privés, par exemple des aéroports, d'avoir recours à des dispositifs de brouillage ou de neutralisation de drones, et surtout de déléguer sous condition la tâche de ces brouillages à des sous-traitants privés. Là, ça fait référence aux différentes attaques et intrusions, notamment en numérique, auxquelles ont été subies pas mal d'aéroports récemment. Le texte comporte aussi d'autres mesures normatives, par exemple pour encadrer la liberté d'expression de la part d'agents ou anciens agents des services du renseignement, donc là pour éviter des fuites et donc éventuellement couvrir officiellement le secret militaire, mais officiellement aussi peut-être justement des abus. Et dans le texte sont aussi prévues des mesures pour encadrer par exemple la mobilité professionnelle de certaines personnes qualifiées dans le domaine scientifique. Peut-être les empêcher d'aller révéler justement ce qu'ils auraient pu savoir en allant travailler ailleurs. Ce texte élargit aussi la possibilité pour les services de renseignement de pouvoir recourir à des algorithmes pour traquer ou exploiter des données de connexion sur le web, pour la défense nationale notamment, contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants ou d'armes. Et pour terminer aussi, dans les choses prévues dans ce texte, plusieurs mesures, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, concernent la jeunesse, avec notamment la transformation de cette journée défense et citoyenneté en journée de mobilisation, qui va donc être encore plus recentrée sur les enjeux militaires. Voilà tout ce qu'il y a dans ce projet de loi. Il est prévu en tout cas d'être examiné par le Sénat à partir du 10 juin.
Enfin, c'est une longue histoire, mais je vous expliquerai tout ça.
On va parler un peu d'histoire maintenant et aussi toujours de la posture du gouvernement, notamment par rapport à l'esclavage. Il aura fallu attendre 178 ans. Ça fait 178 ans que l'abolition définitive de l'esclavage a été adoptée par la République. Et depuis cette date, la France n'avait toujours pas eu le courage de rayer officiellement de son droit, donc dans le droit français, le Code Noir. Le Code Noir, c'est un recueil d'édits royaux, puisque ça remonte à l'époque du royaume, qui avait organisé pendant plus d'un siècle et demi la déshumanisation légale de millions d'êtres humains. Car oui, c'était appuyé par ces textes, donc le fameux Code Noir. Eh bien hier, le mercredi 20 mai, la commission des lois de l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité en faveur de la proposition de loi pour abroger ce Code Noir, puisqu'il était encore inscrit dans la loi, c'est quand même dingue. C'est le député guadeloupéen Max Mathiassin du groupe LIOT qui a porté cette proposition de loi. Donc c'est un vote historique, mais aussi un aveu pour certains observateurs, celui d'un retard assez honteux. Un peu d'histoire d'abord, on va se rappeler ce qu'est le Code Noir. C'est un article qui a été rédigé et diffusé sur le Média Libre en ligne. C'est une forme de tribune, quoi. Voici ce qu'on y dit. Le Code Noir a été promulgué en mars 1685 sous Louis XIV, rédigé par Colbert, qui était alors le secrétaire d'État à la Marine. Et ce Code Noir est l'acte fondateur du droit colonial français. Dans les 60 articles que compte ce livre, le texte construit un cadre juridique implacable. Les esclaves sont des biens meubles, donc l'équivalent de meubles. Ils sont ainsi donc privés de toute personnalité juridique, soumis à des châtiments d'une violence extrême, interdit de témoigner en justice et incapable de posséder quoi que ce soit. Ce ne sont donc pas du tout des citoyens ni des humains. L'article 44 d'ailleurs de ce Code Noir est assez clair. Nous déclarons les esclaves êtres meubles, donc des êtres humains qui sont réduits au rang de mobilier. Les maîtres pouvaient par exemple les marquer au fer rouge de la fleur de lys, aussi les vendre bien évidemment, les séparer de leurs enfants. Le texte était applicable d'abord aux Antilles françaises Ensuite, il a été étendu à Saint-Domingue, à La Réunion, à l'époque c'était Bourbon, l'île Bourbon, puis à la Louisiane et à la Guyane. Près de 4 millions de personnes déportées d'Afrique ou bien nées en esclavage sur ces terres ont ainsi vécu et sont mortes sous l'emprise de ces dispositions. Donc légalement, elles étaient dans le code noir. 4 millions de vies broyées par un système légalement organisé, cautionné par la couronne, qui enrichissait bien évidemment les colons et nourrissait l'économie de la métropole. Ce qui fait quand même que la France est aujourd'hui un des pays riches du monde. C'est pas grâce à la culture de betterave. L'esclavage a été aboli une première fois par la Convention nationale le 4 février 1794, rétabli par Napoléon Bonaparte en 1802, puis finalement aboli définitivement par un décret du 27 avril 1848. Mais pourtant, malgré l'abolition de l'esclavage, ce code noir, lui, n'a jamais été formellement abrogé. Donc le texte de loi était encore valide légalement. Il dormait hein, quelque part dans les vieux tiroirs et l'ombre du droit français. Jamais donc explicitement condamné par le législateur. C'est donc c'est pour ça que cette proposition de loi a été faite, une proposition transpartisane, hein, mais à noter quand même sans le Rassemblement National ni l'UDR. La proposition de loi a été déposée l'an dernier, le 16 septembre 2025, à l'Assemblée nationale, co-signée par 130 parlementaires, issus, donc je vous le disais, de l'ensemble du spectre politique, hein, des Insoumis aux Républicains. Je vous le disais quand même que le Rassemblement National et l'UDR n'étaient pas dedans parce qu'ils n'ont pas été associés à la démarche et ils n'ont donc pas signé le texte. C'est une absence qui est délibérée selon les gens qui ont proposé cette loi. Ils n'ont pas voulu leur demander de signer ça, mais ça dit quelque chose en tout cas sur la façon dont certains courants politiques se positionnent face à l'histoire coloniale de la France. Le vote qui a eu lieu en commission donc ce mercredi, c'était la première étape d'un parcours législatif qui va continuer la semaine prochaine, le jeudi 28 mai dans l'hémicycle, pendant la niche parlementaire du groupe Liot, justement, avec à sa présidence Christophe Naegelen. Ensuite, le texte devra passer l'étape du Sénat. Mais là, le vote unanime qui a été fait en commission hier est un signal fort. Il y a quand même peu de chance, ou en tout cas, ça marquerait assez mal si quelqu'un avait quelque chose à y redire. Alors regardons un petit peu maintenant ce qu'il y a dans cette proposition de loi. En plus donc du symbole d'abroger le code noir, il y a des petites choses en plus. Donc déjà la proposition de loi, elle va abroger formellement les édits royaux. Dans deux articles, le premier abroge le code noir, donc ça l'annule. Et dans le deuxième, le gouvernement, il est prévu que le gouvernement remette au Parlement un rapport qui va dresser la liste des dispositions issues du droit colonial depuis 1685 jusqu'en 1946, donc d'analyser tout ce que cela a impliqué, et notamment d'analyser leurs conséquences contemporaines en termes de développement économique, social, culturel et environnemental pour tous les territoires concernés, et aussi pour tout ce qui est des discriminations et des racismes dans l'ensemble de la société française. Un amendement porté en commission précise d'ailleurs que ce rapport devra aussi évaluer la place accordée à l'histoire de l'esclavage et de la traite négrière dans les programmes scolaires. Donc une manière aussi de faire entrer ce qu'on appelle communément le racisme systémique et de l'acter par des textes du gouvernement avec certainement mandaté des chercheurs sur la question. C'est une reconnaissance implicite mais réelle, hein. Les séquelles de ce code noir ne sont pas uniquement d'ordre symbolique, elles sont structurelles. Un exemple avec cette députée martiniquaise, Béatrice Bellet, qui l'a exprimée de façon saisissante pendant les débats qui ont eu lieu. Donc elle est députée, hein, élue de la République, et elle a mis un an et demi à trouver un appartement à louer à Paris. Un an et demi. A priori, elle avait l'argent, hein, c'est pas que les prix chers, c'est que les agences refusaient de louer à une personne noire. Le calendrier là, de ce vote n'est pas anodin, puisqu'aujourd'hui, Emmanuel Macron doit s'exprimer à l'occasion du 25e anniversaire de la loi de Taubira. Elle a été promulguée il y a 25 ans. C'est une loi qui a été adoptée par le Parlement en 2001, qui fait de la France le premier pays au monde à reconnaître la traite négrière et l'esclavage colonial comme des crimes contre l'humanité. Christiane Taubira sera là aujourd'hui pour la célébrer aux côtés d'Emmanuel Macron. Et le président devrait se déclarer favorable à l'abrogation du Code noir dans la foulée donc, de cette date symbolique. Continue le texte là que je suis en train de vous lire, abroger ce code noir sans s'attaquer aux discriminations que subissent les personnes noires en France et sans réparer les inégalités criantes des outre-mer, sans transformer en profondeur l'enseignement de l'histoire dans les écoles, ce serait une opération de façade. Et il rappelle aussi que en mars 2026, la France s'était abstenue à l'ONU de voter pour une résolution qui qualifierait la traite transatlantique de crime majeur contre l'humanité. Ils n'ont pas voulu, peut-être pour pas froisser les États-Unis. Voilà, donc je vous le disais, cette tribune a été publiée dans le Média Libre sur Internet.
C'était vraiment très intéressant.
Allez, on revient sur des choses un peu plus concrètes, des infos. Une vidéo fait aussi pas mal polémique et scandale. Une vidéo des militants de la dernière flottille pour Gaza, celle qui est partie de Turquie, qui s'est fait arrêter il y a une petite semaine. Cette vidéo les montre agenouillés et main dans le dos, face notamment au ministre Ben Gvir. La vidéo choque à l'international. Et aussi à Paris, pour une fois, qui ont un petit peu commenté l'affaire, et voire même Benjamin Netanyahou s'est senti obligé de la condamner. Cette vidéo a été postée par un ministre israélien qui a l'habitude de faire le buzz et la polémique. On y voit donc ces militants agenouillés, les mains liées. Ce sont des activistes qui étaient sur les bateaux de la flottille pour Gaza, qui a été interceptée dans les eaux internationales. Le Quai d'Orsay dénonce cette vidéo honteuse. Même Benjamin Netanyahou, je vous le disais, a critiqué le comportement de son ministre, dans lequel on voit les activistes pro-palestiniens emmenés sans ménagement en état d'arrestation dans le port d'Ashdod. Et au milieu, donc tout sourire, le ministre Itamar Ben-Gvir, qui leur dit bienvenue en Israël, et il est très content, il a le sourire, il les humilie. Et au milieu de ces hommes et femmes agenouillés, mains liées, il parade et harangue les détenus devant son équipe qui le filme. Il dit par exemple « Ils font moins les héros, ce sont des soutiens du terrorisme. Je dis au Premier ministre, laisse-moi les garder. Genre, je vais m'en occuper, je vais les punir. » Ben-Gvir est une figure de proue de l'extrême droite israélienne, ministre de la Sécurité nationale et des prisons. Il aime bien ça, se mettre en scène en humiliant et en provoquant. C'est lui aussi qui se baladait avec un petit badge en forme de corde de pendu, parce qu'ils ont rétabli la loi martiale pour les activistes, une partie des activistes palestiniens. Et donc, je vous le disais, cette fois-ci, même en Israël, ça passe pas, ou en tout cas, on fait semblant de s'en émouvoir, hein, puisque Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a condamné la vidéo en essayant de la recadrer. Il a dit « La manière dont le ministre Ben-Gvir a traité les activistes de la flottille est contraire aux valeurs et aux normes d'Israël. Ouais. » Cette flottille était partie de Turquie il y a 6 jours. Hein. Une cinquantaine de bateaux la composaient, des voiliers principalement, en train de naviguer en direction de la bande de Gaza pour, encore une fois, essayer de briser le blocus israélien. Ils ont été arrêtés, c'était pas il y a une semaine, c'était il y a 3 jours, entre la nuit du lundi et du mardi. La marine israélienne a intercepté cette flottille en haute mer en embarquant les quelques 430 militants de plusieurs pays, dont 37 Français à bord. Ils ont été embarqués à bord de navires israéliens. D'ailleurs, Florence Eschia, qui est coordinatrice de Waves of Freedom, qui fait une des assauts qui fait partie de cette flottille, s'insurge en rappelant qu'Israël a violé le droit international. C'est quand même incroyable, dit-elle, qu'Israël s'autorise en toute impunité à aller dans des eaux internationales, kidnapper nos navigantes et nos navigants. Ces militants pro-palestiniens, donc considérés par l'État hébreu comme des soutiens du Hamas, devraient être expulsés du pays rapidement, comme pour les flottilles précédentes. Mais c'est donc la façon dont ils sont traités pendant leurs interpellations qui choque, hein, je vous le disais, de Madrid à Rome, en passant par Paris, puisque hier soir, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a condamné le comportement du ministre israélien envers les membres de la flottille, et il a convoqué l'ambassadeur d'Israël en France pour des explications, 6 autres pays vont faire de même. Bon, il pourrait peut-être lui poser un petit peu d'autres questions aussi, puisque le sort réservé aux Palestiniens est quand même autrement plus grave. Hein, si s'agenouiller, faire agenouiller des gens et les humilier en vidéo va à l'encontre de leurs valeurs, il faudra nous expliquer quelles valeurs sont en jeu. Il y a d'autres vidéos qui circulent, hein, d'ailleurs, par exemple, des colons en Cisjordanie qui tentent, et on voit même des vidéos de meurtres, de sang-froid en pleine vidéo. Donc voilà, de quoi s'indigner, il y en a plein internet.
Allez, rembolle tout ça, mais c'était que vraiment la fin.
On revient à Montpellier où une centaine de personnes se sont rassemblées hier, un rassemblement devant la préfecture, pour exiger la libération de Kamal, qui est un jeune membre, il fait partie du club Omnisport, Asteras. Kamal a été placé en rétention administrative au CRA de Sète depuis le 24 avril dernier. Et ce rassemblement avait pour but de dénoncer des politiques migratoires déshumanisantes. Ce sont donc les membres du club Omnisport Asteras qui sont réunis devant le parvis de la préfecture. Ils avaient ramené des petites cages de foot et des ballons. Un rappel de ce qui unit donc ce club ce jeune Kamal qui est âgé de 30 ans, qui est un fils de pêcheur algérien arrivé en France en 2021. Voilà, ils ont ramené des cages aussi, peut-être histoire de faire, outre la référence au football, une allusion aux 45 mètres carrés grillagés qui lui servent de cours de promenade, donc au centre des rétentions administratives de Sète, où il est toujours pour l'instant retenu. Le club dénonce dans ce rassemblement ce qu'il qualifie de contrôle aux faciès caractérisé, pour rappeler comment l'interpellation a eu lieu. C'était Gare Saint-Roch le 24 avril dernier. Kamal a été conduit au commissariat, puis transféré le lendemain au CRA. Et depuis, sa rétention a été prolongée, pour l'instant jusqu'au 28 mai. Une audience devant le juge des libertés et de la détention n'est toujours pas fixée. Et en plus du cas de Kamal, un membre de l'association, donc le club de Asteras, dénonce aussi la privation de liberté dans ces centres de rétention. On est contre le cas par cas et les politiques migratoires actuelles. Il faut qu'il n'y ait plus personne en CRA. Kamal n'a pas besoin d'être exceptionnel pour mériter d'être libéré. Et pour élargir donc effectivement cette problématique au CRA de manière générale, en 2023, un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté décrivait des locaux vétustes, des sanitaires sans verrou, une atmosphère de tension, et il relevait aussi l'usage d'un taser sur un retenu qui venait de s'auto-mutiler. Il faut rappeler que dans les centres de rétention administrative, c'est une rétention administrative, donc puisque sa situation administrative n'est pas en règle, mais c'est pas une prison, on n'est pas condamné. Les associations La Cimade et France Terre d'Asile notaient d'ailleurs en 2023 aussi une hausse continue à l'intérieur de ces CRA des actes auto-agressifs, hein, des violences envers elles-mêmes. Ainsi, en mai 2024, 10 personnes s'étaient évadées du CRA en une nuit. La lutte ne s'arrête pas d'ailleurs à 7, puisque un autre centre de rétention administrative est censé ouvrir à Béziers en 2027 pour 120 places. Pour s'y opposer, d'ailleurs, un week-end de mobilisation est prévu les 3 et 4 octobre dans la région. On vous en reparlera d'ici là. Quant au jeune Kamal, sa prochaine audience, vous le disiez, n'est pas fixée. Mais son club, lui, a déjà annoncé qu'il serait là. Ruben Torres, puisqu'on parle de migration et notamment de problèmes administratifs et d'obligation de quitter le territoire français, une histoire tragique vient d'être révélée dans pas mal de médias d'ailleurs. C'est celle de Ruben Torres, un jeune Hondurien âgé de 37 ans qui a été renvoyé au Honduras, en tout cas qui y est retourné, qui a été retrouvé mort là-bas, a priori tué par un membre de gang dans son pays d'origine. Quelques semaines plus tôt, il était donc encore en France, il avait été débouté de sa demande d'asile et il était donc sous une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Un rassemblement a été organisé en son honneur hier à Bordeaux, puisque c'est là qu'il habitait, pour lui rendre hommage et rappeler la situation des milliers de demandeurs d'asile. Donc ce jeune Ruben Torres, avait 37 ans, a été découvert mort au fond d'un ravin. C'était le 10 mars 2026 dans son pays d'origine, le Honduras. Il y était rentré quelques jours plus tôt, après avoir été débouté donc deux fois en France de sa demande d'asile. On va raconter un petit peu son parcours. 15 ans plus tôt, donc son frère, qui s'appelle Émile, dénonçait un membre de gang et l'accusait d'assassinat. Le dénommé membre de gang est parti en prison, mais a réussi à s'évader quelques fois. Au cours d'une de ses évasions, ce meurtrier a croisé la route du frère d'Émile, Ruben, et l'a menacé avec un pistolet braqué dans la bouche. Il a promis de le tuer s'il venait à le revoir. Une envie de vengeance. Entre-temps, l'autre frère, donc Émile, lui, était déjà parti en France se réfugier quelques années plus tôt, puisque leur père est français. Donc il est venu en France rejoindre son père. C'est suite à ces menaces donc, que Ruben a décidé lui aussi de quitter le pays, et il est donc venu à Bordeaux pour fuir les gangs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a exposé, tout ça, dans sa demande d'asile, qu'il a déposé à l'OFPRA. C'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui gère donc ces dossiers. Eh bien, l'office lui refusera sa demande d'asile. Il a donc fait, suite à ça, un recours devant la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a aussi débouté, sous les raisons qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour prouver l'existence des menaces. Et oui, c'est toujours ça un petit peu le problème dans ces dossiers. C'est ce qu'explique l'avocat de Ruben, Pierre-Antoine Cazot. C'est une décision d'ailleurs assez hallucinante, pour notamment l'association Asti, qui a suivi Ruben pendant 4 mois pour apprendre notamment le français. L'association rappelle qu'il vient d'un des pays les plus violents du monde pour tenter de rejoindre son frère, venu en France pour la même histoire, mais que là, on ne le croit pas. On vit dans un système de fous, et s'étonne le président de l'association. Il faut que les gens prouvent qu'ils sont en danger. Il dit, je ne sais pas pour vous, mais c'est souvent compliqué de prouver qu'on est en danger avant qu'un drame n'arrive. C'est donc le 18 septembre dernier que l'étau s'est resserré autour de ce réfugié, puisque Ruben Torres a alors reçu une obligation de quitter le territoire français. Il était sous OQTF, comme on dit, et ça, il n'a voulu pas vivre avec. Hein. Les démarches n'auront même pas le temps d'aboutir. Il était comme un lion en cage dans son appartement parce qu'il avait très peur de sortir, hein, puisqu'à partir du moment où on a une OQTF, potentiellement, on peut se faire arrêter dans la rue. Il avait peur, justement, d'être placé en centre de rétention, explique son avocat. Côté professionnel, d'ailleurs, et tout ce qui est insertion sociale, etc., bah, quand on est sous OQTF, on ne peut pas travailler, puisqu'aucun employeur ne voudra vous embaucher. Et donc, bah, ça oblige à vivre dans l'illégalité, ce qui est insupportable pour pas mal des personnes concernées par ces cas. Et donc, c'est le 28 février dernier qu'il a décidé de prendre un avion pour rentrer au Honduras, malgré les dangers, avec l'espoir de revenir en France l'année d'après pour tenter une nouvelle demande d'asile. Il espérait donc faire profil bas au Honduras, se cacher pour échapper à ce qui lui est arrivé. Et malheureusement, il a été rattrapé par ce dont il avait peur. Le 10 mars, on a retrouvé son corps au fond d'un ravin. C'est sa mère même qui l'a retrouvé après 2 jours de disparition. D'ailleurs, cette mort a été médiatisée au Honduras. Hein. Scène de crime filmée, photographiée par de nombreux médias. Même si l'autopsie a déclaré qu'il s'agissait d'un accident qui serait tombé dans le ravin, la conclusion est fausse hein, pour sa famille, qui ne l'a pourtant pas surpris, vu apparemment l'incompétence et la corruption qui règnent pas mal dans les autorités locales. En tout cas, sa mère, elle a pu voir le corps, elle a vu des trous dans son visage et dans sa gorge. Et en plus, il connaissait parfaitement l'endroit, il n'aurait pas pu chuter par accident. D'ailleurs, la même nuit, selon les proches de Ruben, une vingtaine de morts suspectes ont été recensées dans tout le secteur. Pour ce qui est de la France, depuis 4 mois, Ruben prenait des cours de français auprès de l'association ASTI, hein, qui aide donc des réfugiés, avec des cours de français, mais aussi de l'aide juridictionnelle. Il venait de passer un examen blanc pour justement prouver son niveau en français. Et c'est quand il n'est plus venu qu'eux se sont inquiétés, et c'est là qu'ils ont appris la tragédie. C'est pourquoi l'histoire a fini par arriver un petit peu dans nos médias aussi. Cette histoire, elle est tragique, et c'est loin d'être un cas isolé. En France, 145 211, donc presque 150 000 demandes d'asile ont été enregistrées à l'OFPRA l'année dernière et 78 000 ont été accordées, ce qui fait un peu moins d'une demande sur deux, un peu moins de la moitié. C'est très difficile lorsque la demande ne comporte pas de preuves matérielles, explique donc l'avocat. Ça doit passer par le récit, un récit précis et détaillé, sauf que on va pointer justement, chercher à pointer toutes les petites choses qui crochent. On vous fait répéter l'histoire plein de fois, comme dans une déposition de police, et la moindre incongruité qui pourrait donner l'impression de mensonge est pointée et peut faire rejeter le dossier, sauf que la vie n'est pas toujours rationnelle, et les souvenirs encore moins. Cet avocat, aux côtés de plusieurs associations, souhaite d'ailleurs aussi dénoncer le climat politique français. Il explique que les standards de régularisation sont extrêmement élevés, qu'il n'y a presque plus de régularisation aujourd'hui. Le critère aujourd'hui, c'est que le centre des intérêts privés et familiaux soit en France pour pouvoir être régularisé, et il ne faudrait plus avoir aucun intérêt et aucun lien familial à l'étranger. De sorte que si on refusait le titre de séjour, ça serait une atteinte très importante au droit à la vie privée et familiale. En somme, si vous avez toujours un plan B de repli quelque part, on vous dit non. Ces situations sont absolument impossibles, dénonce le président d'ASTI. Qu'il soit demandeur d'asile ou migrant, cette association affirme croiser dans les rues de Bordeaux des centaines de personnes qui sont confrontées à l'absurdité du système. Donc des gens qui n'ont pas le droit de travailler, mais qui pour manger et s'intégrer bah, ont besoin d'argent. Ils n'ont pas d'argent puisqu'on les empêche de travailler. Et on est quand même censé être le pays des droits de l'homme, conclut le président Serge Millet. On est inhumain par bêtise pour faire plaisir à ces gens qui pensent que les immigrés nous envahissent.
C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches.
Allez, on termine avec une petite nouvelle de lutte syndicale autour de Perpignan. Ce sont les salariés d'une clinique, d'un groupe privé qui s'appelle Elsan, qui sont en grève, une grève massive depuis 29 jours. On est donc à Cabestany, à côté de Perpignan. Ils demandent tout simplement des hausses de salaire. En face, la direction cherche, elle, en revanche, par tous les moyens à casser leur mouvement. Et ça rappelle un petit peu des stratégies qu'on croirait issue du siècle dernier. Tous les moyens légaux et illégaux sont utilisés pour culpabiliser et discréditer les grévistes, explique ainsi la CGT et la CFDT de cette clinique. La clinique s'appelle Medipôle, elle est dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont fait un communiqué le 20 mai dernier. Ça fait donc 29 jours que les salariés de l'établissement qui appartiennent à ce groupe de santé privé lucratif Elsan sont en grève à Cabestany, en banlieue de Perpignan. Ils et elles exigent une augmentation de leur rémunération et l'amélioration des conditions de travail. C'est un mouvement massif depuis le 24 avril. Donc la clinique, qui compte environ 600 salariés et qui accueille presque 80 000 patients par an, elle tourne donc au ralenti. Tous les services ont été regroupés sur un seul niveau, alors qu'ils sont habituellement sur trois niveaux. Et les relations sont de plus en plus tendues entre la direction et les grévistes, puisque le 19 mai, la direction a stoppé ses négociations en déclarant au journal régional L'Indépendant qu'elle envisageait de fermer temporairement l'établissement si ça s'avérait nécessaire. Alors la menace ne fera sans doute qu'un flop, parce que c'est complètement illégal en France. C'est une pratique qu'on appelle du lock-out, dans laquelle l'employeur est donc, elle est illégale puisque l'employeur en France a l'obligation de fournir du travail à ses employés non grévistes lorsque leur santé n'est pas mise en danger. Les deux syndicats de la clinique, eux, dénoncent des tentatives de culpabilisation. Ils disent que la direction va jusqu'à déformer la réalité, notamment sur la prise en charge des patients de dialyse, qui sont effectivement dans des cas de vie et de mort. Ils rappellent que justement le report ou l'annulation des séances de dialyse est soumise à l'avis des médecins et de la direction uniquement, et que ce ne sont donc pas les grévistes qui vont, comme un accord, décider de laisser des gens sur le bord et peut-être mourir dans leur brancard. Depuis le début de la grève, la quarantaine de soignants qui font justement tourner ce service de dialyse se retrouve réquisitionnée, c'est-à-dire qu'elle est obligée de travailler. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais eu la volonté de contester les réquisitions, car ils savent que c'est un service sensible, ce sont eux qui sont sur le terrain avec les patients. C'est ce qu'explique par exemple la déléguée syndicale CGT de la clinique, Anne-Laure Affany. En revanche, une vingtaine de réquisitions de grévistes pour d'autres services ont été faites par la direction, demandées donc par le groupe, ordonnées par la préfecture des Pyrénées-Orientales. Eh bien, celles-ci ont été cassées par le tribunal administratif de Montpellier. C'était le 18 mai dernier, suite justement au recours de la CGT, et le tribunal administratif leur a donné raison. Face à ces manœuvres de la direction, en tout cas les grévistes se réunissent tous les matins en assemblée générale et ils oscillent entre colère et lassitude. Par exemple, cette aide-soignante Magali explique que ses voisins se demandent pourquoi les gendarmes viennent sans cesse sonner chez elle. Elle est aide-soignante de nuit depuis 25 ans dans cette clinique et elle se retrouve chaque jour réquisitionnée par les gendarmes sous constat d'huissier. Et elle ajoute « Tout ça coûte de l'argent alors qu'on pourrait juste l'utiliser pour augmenter nos salaires. » Selon Simon Ormeda, qui fait partie du comité social et économique de la clinique, environ 50% de ses salariés de Medipôle touchent entre 1 600 et 1 700 euros net mensuels. C'est donc le SMIC. Et il faut ajouter à cela la prime Ségur, qui a été montée après la crise du Covid-19, qui est d'environ 180 euros net. C'est donc dans cette échelle de rémunération que sont payés les aides-soignantes de la clinique. Mais aussi, par exemple, un autre qui a été interviewé, qui s'appelle Damien, qui est brancardier, ou Thierry, qui fait partie du service technique, qui lui répare le matériel de l'hôpital. Et cette aide-soignante, Magali, explique que tout ça n'est pas assez, et que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle travaille entre 13 et 18 nuits par mois. Elle choisit de faire des nuits pour pouvoir toucher une prime de 150 euros mensuels en plus. Et pourtant, elle y perd la santé, et on imagine une partie de la vie familiale. Dans ce contexte, donc dans les revendications des grévistes, une prime annuelle d'intéressement d'environ 1 500 euros, qui est touchée par tous les salariés de la clinique, serait vue comme une respiration. C'est une respiration. Et justement, les négociations annuelles obligatoires qui ont lieu à ce mois de mars, la direction a tenté de modifier justement les conditions d'obtention de la prime. Et c'est ce qui a déclenché la grève. La principale revendication donc des grévistes au départ, c'était aussi le versement d'un 13e mois pour venir pérenniser ces 1 500 euros qu'ils touchent chaque année au titre de l'intéressement. Le 13 mai 2026, les salariés de la clinique Saint-Pierre de Perpignan, qui appartient elle aussi au groupe Elsan et qui était aussi en grève, ont mis fin à leur grève de leur côté après 20 jours. Ils avaient les mêmes revendications que la clinique de Medipôle. mais ils ont accepté 400 euros de prime pérenne qui a été promise cette fois dès 2027. Donc voilà, ils ont eu des négociations et ils ont fini par s'en contenter. On ne sait pas si ça sera pareil pour la clinique de Cabestany, puisque les grévistes sont un petit peu échauffés par le comportement de leur direction. En tout cas, une médiation avec un expert mandaté par la préfecture a eu lieu hier. Et les salariés, normalement, se réunissent aussi aujourd'hui de nouveau en assemblée générale. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte, les amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.